Les Amours malades, chapitre 26. L'adolescence de Laurent fut une période épuisante dans tous les sens du terme. Son agressivité, qui s'était atténuée pendant la première période du collège, d'où il était revenu craintif, aimant à se réfugier dans mes bras pour se faire dorloter ou rassurer, cette agressivité, donc, reparut de nouveau. Laurent était toujours au centre de disputes, de bagarres, rentrait à la maison avec les lèvres tuméfiées, les yeux pochés ou les membres couverts d'hématomes. Il eut le bon goût de ne jamais se battre dans l'enceinte de l'école, ce qui lui évita de se faire renvoyer. Par contre, il était souvent insolent envers ses professeurs, et je fus appelé fréquemment à plaider sa cause. Ses résultats scolaires continuaient d'être irréguliers. Laurent était capable d'obtenir un 2, puis un 18, dans la même matière et ce, à 2 semaines d'intervalle. L'année du BEPC, celle de sa puberté, Laurent découvrit la gente féminine sous un autre angle et débuta sa carrière de don Juan, collectionnant d'innombrables et éphémères conquêtes. Nombreuses étaient celles qui se faisaient prendre au piège de sa beauté déjà époustouflante, et copieuses étaient les larmes qu'elle versait quand, quelques jours plus tard, il les plaquait. Laurent s'était forgé une idée de l'amour très personnelle, ce qui n'avait rien d'étonnant, vu ce dont il avait été témoin sa courte vie durant. Il s'éloignait de moi, critiquait mes choix, mon comportement, ce qui en soi n'avait rien d'étonnant à son âge. Mais le sarcasme et parfois la méchanceté qu'il y mettait me laissaient fréquemment sans voix. Au moins parlait-il encore avec moi, et quand il était bien disposé, nous avions encore nos longues conversations. Par contre, il n'adressait plus la parole à sa mère. Léa, que cet état de choses ne dérangeait pas outre mesure, n'osait plus me frapper ou même m'insulter devant lui. Il ne l'avait jamais ni touchée ni menacée, mais son regard devenait tellement sombre lorsqu'elle se risquait à quelques commentaires désobligeants qu'à présent les tortures physiques ou psychologiques que me faisait subir ma femme avaient lieu seulement dans l'intimité. Une intimité où il était impossible de discerner entre les sentiments. L'amour ou la haine, le bien ou le mal, le désir ou le rejet, plus rien n'avait maintenant d'importance. Il me fallait maintenir un certain équilibre, survivre, ne rien laisser paraître et oublier qui j'étais en réalité. Je l'avais en fait oublié depuis longtemps. Depuis longtemps, je jouais un rôle, pas mon rôle, non, mais un rôle mis au point à la faveur du temps et des événements, mille fois répété pour le rendre meilleur, plus crédible. J'étais comme un acteur qui, à la millième représentation, ne sait plus faire la différence entre son personnage et son être propre. Laurent, au contraire, semblait chercher désespérément à savoir qui il était et s'essayait à toutes les expériences possibles. Il changeait d'amis autant que de partenaires féminines, exerçait une multitude d'activités, pratiquait un nombre infini de sports les uns plus périlleux que les autres. Le danger l'attirait comme la lumière une falaine. Frôler la mort semblait le fasciner. Je ne sais pourquoi il ne toucha jamais à la drogue. Un après-midi de novembre, alors qu'il était en première, il m'appela durant mes consultations. Il ne l'avait jamais fait. « Papa ? Laurent ? Que se passe-t-il ? » J'étais alarmée. Je m'excusai auprès du patient que j'étais en train d'examiner, puis... « Qu'y a-t-il ? » « Il faut que je te parle. » « Je t'écoute. » « Pas au téléphone. » « Cela ne peut pas attendre ce soir. » « J'aimerais mieux pas, » murmura Laurent. « C'est si grave. » « Je ne sais pas, papa, je ne sais pas. » Laurent avait repris sa voix d'enfant et je le sentais au bord des larmes. « D'accord, mon chéri. » Il y avait bien longtemps que je n'adressais plus à mon fils des mots tendres, mais son ton me reporta des années en arrière, quand, terrorisé, il cherchait auprès de moi un peu de réconfort. Il ne protesta pas. Je consultai ma montre. « Penses-tu pouvoir être ici dans une demi-heure ?» « Oui, je t'attends. » Il fut ponctuel, ce qui nous changea un peu. Il avait, de moi je crois, décidé de démontrer à sa mère qu'elle n'avait aucun pouvoir sur lui et n'arrivait jamais à l'heure au repas ou au rendez-vous qu'elle prenait pour lui, jouissant de sa rage muette. Nous nous assîmes l'un à côté de l'autre sur le divan de mon bureau. Laurent n'évitait pas mon regard, bien au contraire, et je pense qu'il aurait aimé que je devine ce pourquoi il était là sans rien avoir à me dire. J'étais malheureusement très loin d'imaginer ce qu'il venait m'apprendre. Je mis une main sur son genou et l'incitai à parler. Laurent n'était pas du genre à s'embarrasser de préambule. Ma copine est enceinte. Je le regardais incrédule. Mon fils, qui n'avait pas encore 16 ans, avait mis enceinte une de ses compagnes. Ma réaction fut on ne peut plus classique. « Tu en es sûre ?» Elle a fait le test en ma présence. Comme je me taisais, il précisa « Elle était vierge, papa. Je l'ai plantée il y a 2 semaines et ses copines jurent qu'elle n'a fréquenté personne d'autre quand nous sortions ensemble. Ce n'était pas le genre, ajouta-t-il, plus pour lui-même que pour moi. Il me semblait pourtant d'avoir parlé des préservatifs. Bon sang, Laurent, si un enfant est un énorme problème à votre âge, le sida serait un drame. Qu'as-tu dans la tête, bon Dieu? Quel âge a-t-elle ta... la mère? Estelle? 17 ans. Elle l'a dit à ses parents? Oui. Et? Faut-il que je te sorte les mots de la bouche, enfin? J'étais irritée, déçue, et je sentais monter en moi une onde de panique. Ils sont très catholiques. Ils refusent qu'elle avorte. Mais ils ont déjà dit qu'elle ne gardera pas le bébé. Ou je m'en charge, ou ils le donnent en adoption. Ils sont inébranlables. Fantastique. Et toi? Que dis-tu de tout cela? Je ne sais pas, papa. Je ne comprends plus rien. J'ai peur. Tu n'avais pas peur quand... Oh, Laurent, viens ici. Ses yeux remplis de larmes me bouleversèrent. Je l'attirai à moi et le berçai doucement. Il sanglota comme l'enfant qu'il était encore. Quand il se fut calmé, il reprit la parole en reniflant. Je lui tendis mon mouchoir. Il s'y moucha bruyamment et continua. Vous n'avez jamais voulu me donner de frère ou de sœur, et cela m'a beaucoup manqué. Je t'assure que j'ai désiré un autre enfant autant que toi. Je te crois, papa. L'idée de ce bébé me terrorise, mais m'attire en même temps. Il ne s'agit pas d'un petit frère, Laurent, mais de ton propre fils. Oui, c'est bien ce qui m'affole. Mais il est à moi, cet enfant. Le donner à quelqu'un d'autre, je ne sais pas, ça me semble une monstruosité. J'étais fière d'entendre mon fils parler de cette façon, malgré tout ce que cela supposait pour l'avenir. La mère, que dit-elle? Elle veut étudier. Elle n'a pas l'intention de s'embarrasser d'un marmot. Elle le portera, le fera naître, et c'est tout. Elle pourrait le prendre en affection et vouloir le garder. Tu crois? Ma mère m'a mis au monde, mais je ne suis pas convaincue qu'elle m'ait jamais voulu un seul jour de sa vie. Laurent, dis-moi le contraire. Je ne répondis pas, c'était totalement superflu. La panique qui avait pointé son nez au début de notre discussion se montra tout entière. Laurent la devina. Comment va-t-on lui dire? Lui désignait maman naturellement, mais moins il la nommait, mieux il se sentait. Bonne question. Elle va tout te mettre sur le dos. Elle va dire que c'est ta faute. Elle te tuera. Oh, papa, qu'est-ce que j'ai fait? Laurent, nous devons penser à l'enfant et à toi, pas à moi. Si tu es convaincu de vouloir ce bébé, je te promets que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour t'aider. Je ne pense pas avoir le droit de t'obliger à quoi que ce soit. Tu es très jeune, mais tu m'as prouvé que malgré toutes les bêtises dont tu es capable, tu es aussi à même d'assumer tes responsabilités. Je pense connaître ta mère et je crois que tout se passera mieux que tu ne le crois. Nous lui expliquerons la situation ce soir. Puis nous irons parler avec les parents d'Estelle. Cela ne m'étonne pas de toi, fut le commentaire acide de Léa quand Laurent lui apprit la nouvelle. Et encore moins de ton père. Léa se tourna vers moi. Heureusement que tu as voulu prendre en charge son éducation sexuelle, parce qu'en tant qu'homme, père et médecin, tu étais parfait. On voit ce que cela a donné. Tu ne vaux vraiment rien, ni comme homme, ni comme père, ni comme médecin. Maman, ferme-la. Papa n'a rien à voir là-dedans. C'est moi qui fais l'amour sans préservatif, pas lui. L'arrogance et le manque de respect que Laurent n'avait pas adopté avec moi explosèrent quand il s'adressa à sa mère. Je veux que nous gardions cet enfant. Nous? C'est ton fils, mon cher. N'aie crainte, tu n'y toucheras pas à mon fils. Et que proposes-tu pour l'entretenir? Je travaillerai, lança Laurent. Ah vraiment? À 16 ans? Et qui voudra de toi, petit génie? Léa, Laurent doit continuer ses études. Toi, tais-toi. Écoute-moi bien, Don Juan. Les Lambert ne permettront jamais qu'on jette un autre Lambert à la poubelle. Il ne fait donc aucun doute que nous garderons cet enfant. Mais tu l'élèveras, ton bâtard. Je t'apprendrai le métier de joaillier. Tu m'obéiras au doigt et à l'œil. Tu exécuteras tous mes ordres et tu travailleras dur. À ce prix, peut-être, réussirai-je à faire de toi quelqu'un de bien, digne d'élever un enfant. Faire grandir un fils est une tâche lourde et importante, crois-moi. Que devrais-je croire? Que parce que tu n'es pas parvenu à me démolir complètement en 16 ans, tu étais une bonne mère et que tes conseils sont à suivre à la lettre? La gifle fut foudroyante. Laurent soutint le regard de sa mère avec défi. C'est QFD, lança-t-il corrosif. Arrêtez, Léa! Laurent a toujours rêvé de devenir architecte. Tu ne peux pas le contraindre à interrompre ses études. Nous lui donnerons de quoi vivre et il prendra ses responsabilités envers l'enfant d'une autre façon. Il est incapable de prendre des responsabilités. Si vraiment il tenait à devenir architecte, il devait y penser pendant qu'il baisait cette fille sans prendre de précautions. Faire des enfants sans savoir comment est vraiment un vice de la famille Mouret. Un père inconscient, un fils inconscient. Laurent me regardait étonné. Je baissai les yeux. Quand accouche-t-elle? Début juin. Tu passeras 2 heures tous les jours au magasin, ainsi que tous les samedis après-midi. Après ton bac, tu viendras travailler avec moi. Tu feras l'architecte quand tu seras en état de vous entretenir, ton enfant et toi. À prendre ou à laisser? Léa, je prends, céda brusquement Laurent. Je ferai comme tu veux, mais tu n'auras aucun droit sur mon bébé. Si j'ai besoin d'un conseil, c'est à papa que je le demanderai. Tu n'auras pas voix au chapitre. Je t'obéirai aveuglément au magasin, au dehors tu n'existeras ni pour moi ni pour le petit. À prendre ou à laisser. Léa ne portait à l'enfant qu'un intérêt dicté par le bon nom des Lambert et avait trop envie de pouvoir dominer Laurent pour refuser une pareille offre. C'est un marché qui ne me déplaît pas, fit-elle triomphante. J'étais navrée que mon fils ait dû renoncer à ses rêves, mais contre toute attente, le travail à la bijouterie l'enthousiasma. Il découvrit un côté de sa mère qu'il ne connaissait pas, l'artiste. Elle lui apprit tout ce qu'elle savait. Il l'écoutait religieusement et suivait tous ses conseils. Son goût pour le dessin le poussa à créer des modèles que Léa accepta de réaliser. Elle en arriva même à lui demander son avis sur certaines collections et l'autorisa à collaborer à leur élaboration. Une fois sorti de la bijouterie, il redevenait de parfaits étrangers. Laurent découragea les quelques tentatives que sa mère fit pour se rapprocher de lui en dehors du travail. Elle renonça donc, mais elle le traitait avec un peu moins d'indifférence. Laurent suivit la grossesse d'Estelle de très près. Il l'accompagnait à toutes les visites chez le gynécologue, assistait à toutes les échographies et ses cartons à dessin se peuplèrent soudain de bébés minuscules. Quand Laurent avait appris qu'il s'agissait d'un garçon, il était devenu fou. Il avait déjà décidé le prénom. L'enfant s'appellerait Quentin. Il amenait Estelle à la maison et pendant qu'elle étudiait, il mettait une main sur son ventre et guettait les mouvements de son fils, exultant à chaque soubresaut. Estelle se prêtait à ses séances sans protester. Il lui importait seulement que Laurent n'attendît rien d'elle et lui permit de continuer son travail en paix. La mère étant très jeune, le gynécologue avait conseillé un accouchement par césarienne dans un centre spécialisé. Laurent était tellement déçu de ne pouvoir assister à l'accouchement que j'intercédais auprès de mon collègue. Le souvenir de la naissance de Laurent était toujours présent à mon esprit, et le regret de ne pas l'avoir vu naître encore cruel. Le jour fatidique, Laurent vit donc son fils venir au monde. J'étais moi aussi en salle d'opération, et nos larmes se mêlèrent quand ce bout de chou tout blond de Quentin poussa son premier cri. Estelle ne voulut jamais le voir, et nos rapports avec elle se conclurent le jour même, comme ses parents et elle l'avaient décidé. La mère fut emmenée en gynécologie, alors que Laurent prenait sa place dans la chambre qu'on avait réservée pour lui. Il passa 3 jours à apprendre à laver, langer et nourrir son fils. Quant à l'aimer, il n'eut pas besoin de cours. Il adorait cet enfant depuis le jour où il m'en avait annoncé l'existence. Léa respecta le pacte qu'elle avait passé avec Laurent. Elle ne toucha jamais à son petit-fils, ce qui, selon moi, ne lui demanda pas beaucoup d'efforts. Une fois le bac en poche, Laurent poursuivit son travail à la bijouterie et reprit sa vie dissipée, ses activités déchaînées. Pendant un certain temps, les conquêtes féminines ne l'intéressèrent guère. Il emmenait Quentin partout, sauf en discothèque, où, à dire vrai, il n'allait pas si souvent. Le bébé le regarda sauter en parachute, se livrait à des combats de je ne sais quel art martial et se laissait tomber d'un pont pendu à un élastique. Quand Laurent sembla réconcilié avec les femmes, il ramena ses conquêtes à la maison. Il déplaçait le berceau de Quentin dans le couloir durant le moment crucial, puis le réintégrait tout de suite après. Les filles trouvaient cela charmant, et le regardaient parfois donner un biberon. Il ne permettait toutefois à aucune d'entre elles de tenir Quentin dans ses bras. J'étais le seul, mis à part les employés de la crèche, autorisé à m'occuper du bébé, et je ne m'en privais pas. Si Léa laissait Laurent en paix, il n'en allait pas de même pour moi.